De 13h30 TU.
RFI.
Merci d'écouter RFI, les 7h30 à Paris et à Bangui, 9h30 à Nairobi. Et tout de suite, c'est le journal. Bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Andréane. C'est un discours qui divise que celui de Félix Tshisekedi prononcé hier devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès à Kinshasa. Situation économique, questions sécuritaires dans l'Est et potentiel débat sur une réforme constitutionnelle. Réaction de la classe politique congolaise dans un instant. La MONUSCO dément les accusations d'Amnesty International. L'ONG assure que la mission de maintien de la paix en RDC a joué un rôle trouble dans les massacres perpétrés à Goma le 30 août 2023, vous entendrez la porte-parole de la MONUSCO. La cour d'appel de Paris, elle, confirme le non-lieu général prononcé l'année dernière dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française lors des massacres de Bicêtre, lors du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. On fait un point sur la situation économique au Tchad après les consultations annuelles du Fonds monétaire international. Et puis on se replonge dans l'histoire de Sundiata Keïta, fondateur de l'Empire mandingue au XIIIe siècle. Un opéra lui est consacré à Abidjan. C'est notre dossier du jour. Félix Tshisekedi a donc hier prononcé son traditionnel discours sur l'état de la nation. À cette occasion, les deux chambres du Parlement congolais étaient réunies en congrès à Kinshasa. Le premier discours de la sorte depuis sa réélection en fin d'année dernière. Une prise de parole dans laquelle le président a présenté la situation économique de la RDC, les réalisations et progrès en cours, mais aussi la situation sécuritaire, notamment dans l'est du pays, et un possible débat autour d'une réforme constitutionnelle. À Kinshasa, Pauline Azidi a recueilli les différentes réactions de la classe politique après ce discours.
Du côté du parti présidentiel, c'est la satisfaction pour Adel Bazizane, élu UDPS du Nord Kivu. Le chef de l'État a compris les préoccupations.
Très convaincu, surtout qu'il a cité tous les aspects de la vie, particulièrement pour ce qui nous concerne, nous de l'Est, la question sécuritaire qui est vraiment une priorité pour le gouvernement.
Mundekere Zanamangabo est plus mesuré. Ce député du Sud Kivu reste fidèle à l'Union sacrée, la coalition présidentielle. Mais pour lui, il ne faut pas perdre de temps dans les débats politiques.
À ce qui concerne la constitution, il a dit c'est la réflexion. On espère que les gens vont réfléchir. S'il y a à réviser, ça se fait. Moi, j'encourage qu'il y ait un développement du pays. La constitution ne bloque pas le développement.
Le chef de l'État n'a en revanche pas convaincu l'opposition. Hervé Diak est ses porte-parole du parti de Moïse Katumbi.
Vous ne pouvez pas parler de construire de routes 38 000 kilomètres, alors même que pour qu'il quitte chez lui jusqu'au palais du peuple, il a eu besoin qu'on lui dégage la voie parce qu'on n'a plus de route. Chaque jour, les citoyens congolais, quinois, font les pieds pour rentrer chez eux. Et le président de la République est en train de se gargariser dans un discours où on se demande bien s'il décrit quel pays.
Le président vit dans un pays imaginaire, ajoute Prince Epengue du camp de Martin Fayoulou. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Félix Tshisekedi qui, sur la question sécuritaire dans l'Est, s'en est une nouvelle fois pris au Rwanda, qualifiant le pays voisin d'ennemi qui entrave la stabilité nationale, le développement et l'amélioration des conditions de vie des citoyens, l'accusant également de dépeupler des territoires stratégiques avant de les repeupler par des populations étrangères. Le président congolais doit rencontrer son homologue rwandais Paul Kagame ce dimanche à Luanda, à l'invitation du chef de l'État angolais João Lourenço. La RDC ou l'armée est pointée du doigt par Amnesty International pour le massacre perpétré à Goma le 30 août 2023. À l'époque, les forces de sécurité avaient réprimé une manifestation à l'initiative d'un groupe mystico-religieux qui réclamait le départ du territoire de la MONUSCO. La force onusienne de maintien de la paix est également visée par l'ONG de défense des droits humains après la mort ce jour-là d'au moins 56 personnes. Dans un rapport publié ce mercredi, l'ONG assure qu'il ne s'agit pas d'une bévue comme l'avait fait l'armée congolaise, mais que les soldats s'étaient livrés à une folie meurtrière. Elle accuse également la MONUSCO d'avoir joué un rôle, je cite, « trouble » en demandant aux autorités d'interdire le rassemblement, puis en minimisant l'ampleur du massacre. Réponse ce matin de Ndei Khadilo, porte-parole de la mission de l'ONU.
En août 2023, la MONUSCO avait reçu des informations faisant état de manifestations violentes planifiées contre les casques bleus, un risque réel pour les civils et pour son staff. La MONUSCO avait alors contacté les autorités nationales et provinciales de la République démocratique du Congo afin de souligner ses préoccupations concernant ces menaces. Elle avait aussi insisté sur la nécessité pour les autorités congolaises de s'engager proactivement afin d'éviter des pertes en vies humaines, appelé au respect de la liberté d'expression et de la liberté de manifestation pacifique. Je tiens à rappeler que la MONUSCO n'a pas participé à la répression violente des événements du 30 août 2023. Par ailleurs, le bureau conjoint, composante de la MONUSCO et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a fourni un bilan détaillé de 102 civils tués dans son rapport annuel 2023 en ligne depuis janvier 2024 et transmis aux médias durant la même période.
Deïra Dilo, porte-parole de la MONUSCO, avec Esdras Dikoumana. C'est une nouvelle désillusion pour les rescapés du génocide des Tutsis de 1994 au Rwanda. Hier, mercredi, la Cour d'appel de Paris, après plusieurs procédures successives, a confirmé un non-lieu général, déjà prononcé l'an dernier dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française lors des massacres sur les collines de Bicécéro. Dans cette affaire, trois associations, Survie, Ibuka et la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, mais aussi des survivants, accusent l'opération turquoise et la France de complicité de génocide pour avoir, selon eux, abandonné des civils tutsis aux mains des Hutus au mois de juin 1994. Lisa Fabian a assisté à l'audience pour RFI.
L'enquête avait été rouverte en 2021 après un premier non-lieu suite à la publication du rapport de la commission présidée par l'historien Vincent Duclerc. Ce document mentionnait l'échec profond de la France lors des massacres de Bicécéro. Maître Pierre-Olivier Lambert est l'avocat de plusieurs hauts gradés français désormais hors de cause.
Les juridictions ont pris en compte justement les conclusions de ce rapport Duclerc et ont confirmé qu'il n'y avait aucune charge qui pouvait peser contre les militaires français. On peut être fier de ce que nos militaires ont accompli au Rwanda en 94. Absolument aucune charge ne pèse sur eux dorénavant.
Les parties civiles faisaient aussi appel contre le refus des juges de procéder à certains actes d'enquête qui auraient permis d'en savoir plus sur la chaîne de commandement française en plein génocide contre les Tutsis au Rwanda. Maître Olivier Fox, avocat de l'association Survie.
Les données réunies par cette commission d'historiens tendent à dire que les décisions ont été prises à Paris. On sait que Paris, c'est-à-dire l'état-major particulier du président de la République, l'état-major des armées, est informé en temps réel dès le 27 juin de ce qui se passe. Mais on n'a pas d'ordre descendant. Et quels ont été les ordres donnés? On n'a pas ces éléments au dossier.
L'association Survie a indiqué qu'elle poursuivait son combat judiciaire pour faire reconnaître les fautes de la France au Rwanda.
Compte rendu d'audience, Lisa Fabian. Une croissance en baisse et des chocs à anticiper. Voilà ce qu'il faut retenir des consultations annuelles du Conseil d'administration du Fonds monétaire international avec le Tchad. L'institution met l'accent sur une inflation qui devrait rester élevée en 2024 et une croissance économique qui ralentit. 3,1% pour cette année contre 4,9% pour l'année dernière. Les précisions de Charlotte Cossé.
Si la légère baisse de la production pétrolière est pointée, ce sont surtout les impacts des inondations historiques et l'afflux continu de réfugiés en provenance du Soudan qui sont à l'origine de ce phénomène. Dans ce contexte, le FMI a salué les efforts accomplis pour l'élargissement de l'accès aux services publics, le renforcement de la gouvernance et l'amélioration du climat des affaires. La croissance au Tchad pourrait rebondir à moyen terme si des investissements publics soutenus et des réformes structurelles sont réalisées, note encore l'institution. De nombreuses attentes reposent sur la finalisation du nouveau plan national de développement. Parmi les éléments clés que le FMI espère y voir figurer, une politique budgétaire prudente et durable afin de créer l'espace budgétaire nécessaire pour les dépenses sociales et d'investissement. Au-delà des prescriptions traditionnelles, le FMI met en avant le besoin de se préparer à amortir les chocs en constituant notamment des réserves budgétaires ou en faisant avancer la stratégie d'adaptation du Tchad face à la fréquence croissante et la gravité des événements climatiques.
Au Soudan du Sud, un peu plus de deux mois après le limogeage du chef des renseignements en poste depuis l'indépendance du pays en 2011 et d'autres figures du pouvoir, après notamment des affrontements à Djouba entre sa garde rapprochée et les forces de défense et de sécurité. Nouvelle vague de limogeage en début de semaine puisque le président Salva Kiir a mis fin aux fonctions de plusieurs officiels de haut rang. Parmi eux, Santino Dengwal, chef de l'armée depuis trois ans, Atem Marol Biar, chef de la police et James Ali Garang, gouverneur de la Banque centrale. Et pour l'heure, les raisons de ces changements ne sont pas encore connues. Précision, Florence Mietto.
Certains médias évoquent une purge en cours dans l'appareil d'État au Soudan du Sud. Alors que les circonstances exactes des combats du 21 novembre n'ont pas été établies, des rumeurs circulent. Akol Korkouch est-il au cœur d'un complot contre le chef de l'État? Devait-il être arrêté ce jour-là? Si ces questions sont pour l'instant sans réponse, le président sud-soudanais semble douter de la loyauté de certains hauts gradés. L'analyste Daniel Akech-Tiong de l'International Crisis Group observe une restructuration continue du secteur de la sécurité depuis 2 mois. Selon le chercheur, c'est dû à la crise financière qui touche le Soudan du Sud depuis l'arrêt des exportations de pétrole du fait de la guerre au Soudan, mais aussi du fait des luttes de pouvoir qui s'intensifient au sein même du cercle présidentiel. Daniel Akech-Tiong estime que l'incident à la résidence d'Akol Korkouch aurait pu dégénérer car, dit-il, dans tous les épisodes précédents d'affrontements armés à Djouba, il y a toujours eu une sorte d'accident déclencheur. L'armée sud-soudanaise a formé une commission d'enquête pour établir ce qui s'est réellement passé le 21 novembre. Ces travaux sont en cours.
Et l'intronisation du nouveau chef de l'armée sud-soudanaise, le général Paul Nang Majok, doit se dérouler ce jeudi à Djouba. Notre dossier du jour, direction Abidjan, avec un personnage mythique interprété sur les planches cette semaine. Le roi conquérant du XIIIe siècle, Sundiata Keïta, figure fondatrice de l'histoire de l'empire mandingue en Afrique de l'Ouest. L'auteur et compositeur Abbas Zeyn a produit et mis en scène ce qu'il appelle un opéra mandingue autour de ce personnage. Et Marine Janin a pu assister aux répétitions reportage.
Pour raconter Sundiata Keïta, nul n'est mieux placé que le comédien Tchèque Diakité qui joue le rôle titre.
Sundiata Keïta, c'est le fondateur de l'empire mandingue. En quelque sorte, c'est mon ancêtre. C'est un conquérant, il a la fougue, il a la rage de vaincre. Quand on dit Sundiata Keïta, tout le monde a une image de Sundiata Keïta dans sa tête. Donc moi, comment matérialiser cette image-là?
Pendant 2 heures, les comédiens reconstituent les scènes clés de l'épopée de Sundiata Keïta, avec des parties jouées, slamées, chantées et dansées. Le résultat forme ce qu'Abbas Zeyn a choisi d'appeler un opéra mandingue, une alchimie périlleuse mais maîtrisée, espère le chef de chœur Guy Constant Assoukrou.
On va rentrer vraiment dans le style du terroir mandingue. La petite nuance, c'est que la chorale va chanter sur ce style-là, mais avec des voix plutôt lyriques.
Fils de mon gars aîné, il est là, le lion du Mandé, bienvenue Maridata.
Pendant ce temps-là, il y a les percussions qui sont en train de jouer, la kora, le balafon.
En tout, 100 d'artistes seront présents sur scène. Une très grosse production serait jouée à Abbas Zeyn qui promet un spectacle grandiose et pour lui, un rêve d'enfant qui se réalise.
Ça m'a toujours fait rêver depuis que je suis gamin. C'est un film qui devient roi. C'est un vrai conte, une vraie légende. Ce que l'Afrique a apporté à l'histoire, en fait, et qu'on ignore ou qu'on fait semblant d'ignorer. Et je me suis dit, il faut en faire un spectacle.
Marine Janin, Abidjan, RFI.
Sundiata Keïta figure déjà populaire chez les spectateurs ivoiriens. Les enfants se plongent déjà dans son épopée dès l'école primaire là-bas et s'il n'a laissé que très peu de traces archéologiques, son histoire a continué d'être transmise par les griots sur la base de traditions orales et elle n'a rien perdu de sa force symbolique. En tout cas, selon Chikuna Sissé, professeur d'histoire, maître de conférences à l'université Félix Houphouët-Boigny et spécialiste des migrations et des civilisations mandingues.
Sundiata reste une figure mythique de l'histoire du Mandé. C'est clair qu'il y a beaucoup d'exagérations, mais la figure historique, elle a existé. Il est surtout connu par sa victoire sur Soumangourou Kanté en 1235, geste relaté par des historiens comme des hommes de lettres. Aux indépendances, les leaders de cette période avaient quand même besoin de cristalliser une conscience historique autour de figures mythiques. Les hommes ont toujours besoin d'ancêtres quand le présent fait mal. Quand on était colonisé, on a toujours besoin de répondre à la colonisation par de nouveaux imaginaires qui nous restituent dans un passé glorieux, un passé qui permet de nourrir justement la trame de la Renaissance.
Chikuna Sissé au micro de Marine Janin qui signe ce dossier du jour.